Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Salut à tous, c'est Kevin et je vous souhaite la bienvenue dans Rien à foutre, l'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour parler football et mettre en lumière nos clubs amateurs. Nous sommes donc de retour et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et c'est une émission spéciale car nous fêtons les 1 an de cette émission. Que de chemin parcouru depuis ce fameux samedi 21 décembre 2019. Je recevais à l'époque Franck Agassi, l'ex-président du football club de la Vallée de la Grèce, que je salue. Et qui dit émission spéciale dit invité de marque. Je serai en compagnie non pas d'un invité, mais deux invités, et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de deux frères. L'un est entraîneur, l'autre joueur. L'un est habitué de cette émission, alors que l'autre vient pour la toute première fois. Il ne s'est d'ailleurs pas exprimé dans les médias depuis un certain nombre de temps. Ils représentent tous les deux le club de l'AC Cessiné. Et oui, mesdames et messieurs, les frères Cianci, Mathieu et Hugo, sont avec moi. Bonjour, messieurs.
Salut.
Salut, Kevin.
Comment ça va ?
Vas-y, honneur à toi.
Ça va plutôt
ouais, c'est
bien.
Une question facile. Tu te devines déjà, Hugo ? Comment ça, là ?
Parce que moi, ça va toujours bien.
Bon, ça va, alors. Mathieu, c'est pas le cas pour toi ?
Si, ça va toujours bien.
Bon, ça va, alors. Vous préparez bien les fêtes ?
Ouais, c'est un moment où on n'est pas mauvais, surtout moi, là, pour le
ouais,
coup.
Ouais, j'ai vu 2-3 photos sur les réseaux sociaux. Je vois que t'es en plein dans les emballages en ce moment.
Ah, en ce moment, c'est pas mal.
Bon, c'est super. Bah oui, je suis déjà heureux que vous ayez accepté d'être là pour cette émission spéciale. Bon, Mathieu, toi, tu connais bien cette émission. T'es déjà venu 2 ou 3 fois. Hugo, toi, c'est la première fois. J'ai conscience de la chance, comme je l'ai dit un petit peu en intro, que tu viennes ici parce que je sais que tu n'es pas forcément un homme de médias comme ton frère. Mais en tout cas, merci d'être là. On va essayer effectivement de parler un petit peu de la situation actuelle, même si bon, l'émission s'est aussi un petit peu arrêtée faute d'actualité, parce que quand on prend la décision d'arrêter même les entraînements et tous les matchs, forcément, cette émission, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Donc voilà, là, je recommence avec l'espoir de me dire que peut-être que les entraînements des seniors, vont finir par reprendre. Mais en tout cas, on va essayer de faire un petit point sur la situation. On va essayer de parler aussi un petit peu de toi, Hugo, de ton parcours, hein, ancien joueur du GF38 notamment. Un petit peu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as rejoint Cessiné, si ce n'est peut-être la présence de ton frère. Est-ce que ça a joué beaucoup ou pas? Des choses comme ça, comment tu vois un petit peu le futur. Et puis, on va essayer aussi de parler un petit peu du GF38. J'ai envie de parler du GF38 aussi, parce que je pense que c'est peut-être bien ce qui se passe dans ce club à l'heure actuelle. J'ai envie d'avoir votre avis. Et puis, on va terminer, comme d'habitude, pour tous les invités, un petit jeu de questions-réponses à la fin.
Avec plaisir.
Allez, c'est parti. Alors, Mathieu, je vais commencer par toi. Alors, comment tu vis cette période, une nouvelle période de confinement ? La dernière fois que ça s'était arrêté, ça s'était plutôt, entre guillemets, bien fini, parce que du coup, ça avait anticipé la fin du championnat avec un joli titre de champion pour vous. Et voilà, aujourd'hui, oui, c'est sûr, on a peut-être mis un petit coup de frein à un bon début de saison pour le club de Cessiné. Mais du coup, comment tu vois un petit peu les choses? Comment tu gères les choses? Sachant qu'il n'y a même plus d'entraînement maintenant. Donc, comment toi, en tant qu'entraîneur, tu gères la chose?
Écoute, je pense que comme beaucoup d'entraîneurs, on est dans une situation inédite. Donc, on essaye de s'adapter, de s'informer déjà, parce que tout change tout le temps et les communications entre chaque instance sont très différentes. Donc, on essaye surtout d'avoir les bonnes infos, et puis comme j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on fasse preuve d'humilité, voilà, ne pas prendre de risques, ne pas avoir la tentation de faire des choses qui ne sont pas à faire en ce moment, et se dire que même si ça nous manque, et même si c'est cruel aujourd'hui de ne pas pouvoir jouer au foot, il y a des gens pour qui la situation l'est encore plus,
ouais.
Que ce soit professionnellement ou même sur l'aspect sanitaire. Donc voilà, on essaye de se dire qu'il y a encore pire, et que pour pas que ça dure trop longtemps, il faut faire ses efforts, même si à mon avis, la saison de 2020-2021 est plus que compromise.
Ouais, tu penses qu'elle va s'arrêter ?
Je pense qu'en tout cas, si on ne décale pas la saison, elle s'arrêtera. Maintenant, pourquoi pas repartir sur des saisons, sur des années civiles. Voilà, pourquoi pas redémarrer sur une saison qui irait de janvier à décembre, et auquel cas on aurait aujourd'hui même 4 matchs d'avance sur la saison.
Ouais.
Voilà, je pose la question. En tout cas,
avec toujours une grosse trêve au milieu.
Ouais, en tout cas, on pourrait jouer jusqu'à fin juin déjà, ce qu'on fait pas aujourd'hui.
Ouais.
Une trêve au milieu qui serait une trêve estivale classique, et puis éviter toutes les choses que j'entends un peu qui moi me paraissent être un peu folles, comme des play-offs et tout ce qui s'ensuit.
Ouais.
Je trouve que que la société aujourd'hui est un peu stressée, va pas forcément bien, aller rajouter des matchs au couteau où on sait déjà que dans la presse on entendra parler de faits assez graves parce qu'il y aura tellement d'enjeux qu'on sera dans des émotions telles. À mon avis, ça me paraît pas la bonne solution. Maintenant, il y a les amoureux du sport et puis il y a les amoureux du résultat, du classement et tout ce qui s'ensuit. Je fais partie de la première partie des personnes que j'ai décrites, je l'assume. Après, on se fiera à ce que disent les instances.
Ouais. Tu communiques toujours avec tes joueurs pendant cette période où justement tu ne les vois plus, moins plus en tant qu'entraîneur sur un terrain de foot.
Ouais, on communique, on essaye de rester un peu en contact. On se pose aussi, ils ont beaucoup de questions à poser, forcément. Ils sont aussi très demandeurs parce que les footings, ça va bien 5 minutes, mais ça gonfle assez vite. On garde un contact minimum, mais après, je t'avouerai que c'est pas non plus évident de maintenir ce lien comme il existait auparavant. Et on l'a vu sur la semaine qu'on a eue, là où on a pu faire des séances un petit peu sans contact, où les garçons étaient surtout contents de se revoir.
Ah, vous avez quand même repris des choses
Avant l'histoire du couvre-feu, on avait encore la possibilité de faire du sans contact. Donc on a eu deux séances où les mecs étaient contents de se retrouver. Et puis ça recoupe. C'est plus cet effet reprise-coupure, qui à mon avis est en train de faire des dégâts énormes. Et puis à l'inverse, tu te rends compte aussi sur ta vie perso, le temps que ça prend et l'impact que ça a. Donc que ce soit toi ou les gens qui t'entourent, prennent aussi un peu goût à l'inverse, à ce confort familial que tu retrouves.
Ouais, c'est ça. Ou alors peut-être que pour certains c'est l'inverse, peut-être qu'ils se disent il est trop souvent à la maison maintenant.
Alors chez moi c'est pas le cas. J'aimerais bien que ce soit un peu plus nuancé, mais c'est pas le cas.
Du coup voilà, tu profites bien de ta famille.
C'est ça.
Donc et moi j'ai une question que je me pose parce que pour tous les amoureux du football, comme tu l'as dit Mathieu, la situation elle est très elle est perturbante parce qu'on sait pas, on n'a pas vraiment de visibilité, on voit pas vraiment le bout du tunnel. Et pour les joueurs aujourd'hui, je me demande, ceux qui ont l'habitude justement de faire les 2-3 séances de sport plus le match le samedi, quel est le moral? Tiens Hugo, peut-être que toi tu peux nous répondre à ce niveau-là. Est-ce que ça vous manque beaucoup? Est-ce que ça a atteint votre mental, enfin entre guillemets, est-ce que vous êtes vous sentez un petit peu plus pas déprimé, c'est un petit peu fort, mais est-ce que ça vous atteint?
Moi, sur le plan personnel, pas plus que ça.
Ouais.
Parce que bon, on va pas dire que c'est un gros manque, mais on va dire qu'on a eu la première fois, déjà on a été coupé.
Ouais.
Donc on s'était un peu habitué. Et puis bon, là, avec le temps qu'il y a, la neige, la pluie, le froid, on va dire s'entraîner à 19h, c'est pas un manque plus que ça. Après, c'est sûr que 2-3 semaines, c'est bien. Et puis après, t'as toujours le manque de compétition le plus important qui arrive à nous manquer. Et pourquoi on joue au foot, quoi.
Ouais, c'est sûr. Puis en plus, là, ce qui est dommage, c'est que du coup, vous étiez bien lancé dans ce championnat de R1, qu'on savait en plus difficile parce que vous n'avez pas hérité de la poule la plus simple. Et puis au final, est-ce que vous craignez, que ce soit Mathieu ou toi, Hugo, que à la reprise, la dynamique peut-être soit un peu plus compliquée?
Moi, je pense pas.
Ouais, moi, j'ai peur. Je pense que si on avait dû avoir peur de quelque chose, on aurait eu peur dès le départ. Aujourd'hui, s'il y a bien un sentiment qu'on n'a pas, c'est la peur. Par contre, je pense qu'à un certain niveau, peut-être pas le nôtre, mais au moins à partir de National 3, je pense que ça va créer des inégalités très fortes. Il y a des clubs qui ont pu s'entraîner parce qu'il y avait des contrats fédéraux, d'autres qui ont une structuration qui fait que les mecs n'ont peut-être pas forcément de travail à côté ou ont des jobs où ils peuvent s'arranger avec le club et se rendre disponibles pour des séances. Aujourd'hui, le foot le plus touché, c'est le foot amateur, celui où il y a travail la journée. Nous, on en fait partie, donc on est bien plus impacté, à mon avis, que peuvent l'être, par exemple, certains joueurs de l'équipe réserve du GF 38 ou de l'équipe de Valence qui sont dans des dimensions entre le R1 et le N3.
Oui.
Donc le décalage sera peut-être un peu plus fort à la reprise. Moi, j'ai surtout peur que ça crée de la lassitude et que ça se ressente comme ça s'est déjà ressenti sur le nombre de licenciés au niveau de la Fédé sur les prochaines reprises.
Moi, je me posais la question, est-ce que vous avez eu des coups de fil de joueurs qui songeaient à arrêter, du coup?
Pas encore ce genre de coup de fil-là.
Non.
Par contre, tu le vois sur le nombre d'adhérents un peu de partout.
Oui.
Non, tu ne l'as pas encore sur ce niveau-là. Tu as beaucoup de questions aussi sur la Coupe de France, forcément, parce qu'on était encore qualifiés. Et que tu commences à rentrer dans des tours. Rentrais dans des tours à enjeux aussi, il ne faut pas se le cacher, financier pour le club. Donc, il y avait beaucoup de questions autour de ça. Songer à arrêter, tu sais, il y en a qui songent à arrêter même avant le Covid. Hein, donc, il suffit de jouer un peu moins pour songer à arrêter dans le football aujourd'hui. C'est là où on va vraiment voir si le foot est devenu un espace de consommation ou de passion.
Et c'est vrai,
je pense que s'il y a de la casse, c'est que c'était devenu un monde de, de consommation plus que de passion.
C'est vrai. Puis quel bon, toi, je me doute que tu peux pas me répondre pour la CCCiné, mais moi je me posais aussi des questions par rapport à la santé financière de tous ces clubs amateurs. Le nouveau président du Football Club de la Vallée de la Grèce, que je connais bien, a lancé un petit appel à la Fédé et aux villes aussi, aux communes qui subventionnent un petit peu aussi ces clubs-là. Parce que forcément, plus de manifestations, plus d'argent qui rentre, plus de buvettes, plus de matchs. Tu payes peut-être un peu moins tes entraîneurs parce que, ou tu les mets au chômage partiel pour ceux qui sont salariés, enfin je sais pas, mais quelque part tu as quand même besoin aujourd'hui, quand tu es club, de ces manifestations, de ces matchs, de cette buvette, de cette ambiance aussi. Et est-ce qu'on n'est pas en train de tuer nos clubs amateurs?
Ouais, après je peux pas parler pour Cessiné, mais oui, je pense que c'est partout dans chaque club. Enfin, c'est pas que je peux pas parler de Cessiné, c'est que j'ai pas de chiffres à
bien
donner
sûr,
précisément.
Oui, c'est pour ça, oui bien sûr.
Parce que je peux parler de tout, mais après, c'est assez simple pour les clubs. Il y a des budgets prévisionnels qui sont votés. Mmh. Aujourd'hui, prendre sur un budget prévisionnel la part des manifestations dont tu sais que tu ne pourras pas tenir compte cette année, déduire un nombre de licenciés qui est plus faible que celui que prévu, et en parallèle, déduire un peu ce que tu économises effectivement sur tes éducateurs, que tu indemnises pas actuellement, sur les frais d'arbitre aussi, qu'on ne cite pas souvent, mais qui existent, sur les collations d'après-match, sur les frais de déplacement. Enfin, il y a des choses effectivement que les clubs ne sortent pas. Quel impact sur le sponsoring privé aussi? Quand tu vends un sponsoring tes résumés de match et qu'il n'y a plus de match, forcément il ne va peut-être pas te payer s'il ne l'a pas déjà fait. Donc il faudra poser des chiffres. En tout cas aujourd'hui,
il y a des commandes qui sont passées en septembre ou en août concernant le matériel, concernant les maillots, ou j'en sais rien.
Tu as raison. Après je pense que les clubs qui souffriront le plus sont ceux qui avaient effectivement une part de financement basée en grande partie sur le sponsoring privé et les manifestations, parce que ces gens-là aujourd'hui ont fait le choix de plus compter sur le financement public. Et c'est là où aujourd'hui on t'envoie, on te demande de ne plus compter sur les soutiens publics. Et aujourd'hui,
ils n'ont pas le choix.
Paradoxalement, ça va être les plus pénalisés parce qu'aujourd'hui, les seuls financements qui restent, c'est les financements publics. Donc il y aura là, derrière tout ça, une réflexion générale à porter pour les clubs. Après, pour que cette réflexion ait lieu, il faudra que les gens qui soient à la tête des clubs aient envie de mener cette réflexion et le mènent avec la plus grande lucidité et la plus grande intelligence, et qu'elle soit collective surtout. Je pense que si chacun tire dans son sens et prêche pour sa paroisse, il ne se passera absolument rien. Les restaurateurs l'ont compris de l'autre côté. Enfin, il faudra créer des choses, mais surtout réfléchir à ce que doit devenir le sport amateur. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi trop de clubs? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réinventer? En tout cas, cette période-là va obliger tout le monde à se poser des questions.
Je pense que les cartes vont être rebattues. Pour terminer un peu sur cette page un peu Covid, est-ce que la Fédé, est-ce que la Ligue communique avec les clubs sur des potentielles dates de reprise ou pas? Est-ce que vous entendez des choses?
Communique. Après, Kev, faut être réaliste. Je pense qu'il y a, c'est plus de la com, de lobbying, entre guillemets. C'est plus une volonté d'essayer de mettre dans la tête du gouvernement des dates. Maintenant, on va être clair. Si à la sortie des fêtes, le nombre de cas Covid explose, que ce soit la Fédé ou la Ligue, ils n'auront pas beaucoup d'armes pour justifier de la reprise du sport. Moi, je serais très gêné qu'on me laisse reprendre le sport et qu'en même temps, mes collègues restaurateurs sont en train de crever la dalle, que des amis perdent leurs parents ou leurs grands-parents. Enfin, ce qui paraissait loin sur la première vague, aujourd'hui en Isère, on a tous connu des personnes qui sont décédées du Covid. Donc je pense qu'il faut prendre du recul et avoir de la lucidité par rapport à ça. Moi, ça ne me choquerait pas que le sport vienne en dernière ouverture, et ce serait la chose la plus logique. Maintenant, des dates, moi je te le redis, c'est le mot humilité. Voilà. Que chacun prenne le temps de regarder la situation, et que plutôt qu'on ait une com qui change tous les 3 jours, que les gens attendent réellement au niveau des instances pour communiquer quand la situation sera stable. Mais à mon avis, la situation ne sera pas stable avant avril-mai, et encore, très sincèrement.
Oui, donc ce qui te laisse effectivement penser que la saison 2020-2021, telle qu'on l'avait envisagée, est peut-être compromise.
Ou alors au forcing, tu reprendras 2 mois entre février et mars, et puis on te fera réarrêter 2 mois. Donc si c'est ça qu'on a envie, moi je trouve que c'est pire de te redonner un peu le goût et de te le réenlever que d'attendre réellement une date et d'être conscient que ce qui se passe nous dépasse un petit peu tous. Voilà.
Ouais. C'était facile ou pas de faire respecter les gestes barrières pendant la...
Au départ, tant que ça touchait pas trop en Isère, ça nous paraissait loin. Là, c'est un peu plus facile. Maintenant, comment tu fais toi, pour justifier que avant d'arriver sur le terrain, il faut le masque, il faut se mettre du gel et autres, et qu'une fois qu'on est sur le terrain, les gars s'agrippent, utilisent le même ballon, t'as le gardien qui crache dans ses gants, tu vas fêter un but tous ensemble, enfin, c'est ce qui se passe avant la coupure quand même.
C'est ça que je comprenais pas, justement, moi non plus.
Bon, moi, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique, voilà. Après, je respecte, et pour pas à un moment porter le poids sur la conscience d'avoir contribué à cette potentielle troisième vague qu'on annonce. Mais oui, il y a des choses qui sont très compliquées à comprendre dans la logique, en tout cas.
Bon, eh ben on va fermer cette page Covid. On va essayer de passer sur des sujets un peu plus légers. Ton parcours, Hugo, moi, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, même si bon, tu es quand même pas le plus méconnu des footeux grenoblois. Mais voilà, j'aimerais bien que tu te représentes un petit peu et que tu nous expliques un petit peu quel a été ton parcours et comment tu es arrivé à la CCCiné.
Tout simple. De 5 ans à 13 ans, j'ai fait ma formation à Échirolles.
Ouais.
De 13 ans jusqu'à 18 ans, toute ma formation, centre de formation à Grenoble. Et après, j'ai signé pro et j'ai fait un an à Boulogne.
Ouais.
Et après, j'ai fini tout à Grenoble.
D'accord, ok. À la maison, voilà. Peut-être pas dans la période la plus facile, d'ailleurs.
C'est-à-dire
La période grenobloise, entre guillemets, quand le club est redescendu et que c'était plus compliqué.
Ouais, mais c'était un challenge. C'était un challenge à accepter. Et je l'ai fait avec le cœur, et je l'ai fait avec de la volonté et de l'envie. Et j'ai rien à regretter. J'en garde que des bons souvenirs.
D'accord. Et tu as connu du coup les entraîneurs qui ont aidé un petit peu à la reconstruction de Grenoble, Olivier Saragaglia,
qui était mon entraîneur centre de formation déjà.
Ouais, que tu connaissais déjà d'avant.
Bien sûr.
D'accord.
En 14 ans, Olivier, l'avais eu. Ouais.
D'accord. Moi, je l'ai eu dans cette émission. Moi, je suis fan de Olivier Saragaglia, pas autant que Mathieu Cianci. Je suis fan aussi. Et comment il est moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment il était dans le quotidien, au niveau des entraînements, comment il travaille, quelle est sa philosophie de jeu.
Oh, Olivier, il a toujours su emmener son groupe avec lui et son effectif.
Ouais.
C'est quelqu'un qui sait être joueur, comme quelqu'un qui sait être professionnel, arrivé au bon moment. Et puis, ça reste un compétiteur, il voulait toujours avoir cette envie de gagner. Ça passait très bien, quoi.
Tu as toujours su, quand tu étais jeune, que tu toucherais au monde professionnel ou pas?
Après, c'était un rêve comme tout gamin.
Ouais.
Après, tu dis pourquoi pas, mais tu te poses pas plus ces questions-là. Et puis après, quand tu commences à rentrer dans le centre de formation et tu commences à passer les étapes, les âges, tu te dis pourquoi ne pas y arriver, quoi.
Quels ont été les joueurs ou les entraîneurs ou les dirigeants qui t'ont fait franchir un petit peu des paliers et qui ont fait que tu es arrivé justement jusqu'à ce très haut niveau?
Après, dans une carrière, tu as beaucoup d'entraîneurs. Donc, j'ai eu des personnes très, 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 très importantes qui ont confiance en moi et qui m'ont aidé.
Ouais.
Et puis après, tu as des personnes avec qui le contact et le feeling passent un peu moins. Mais ouais. Après, il ne faut pas en vouloir à Pierre, à Paul ou à Jacques. Il faut s'adapter. Et puis, il faut avoir ton objectif en tête et continuer à avancer, quoi.
Ouais. Et tu peux citer justement du coup, les personnes du coup, qui t'ont un petit peu aidé?
Échirolles, j'ai eu Riyad. J'ai eu Philippe, De Oliveira, Pascal Di Tommaso aussi qui a su m'aider aussi, pas mal aussi petit.
Il revient pas mal ce Pascal Di Tommaso, je l'ai entendu quelques fois quand même à ce micro.
D'ailleurs, une grosse pensée, un gros bisou à Pascal, il saura pourquoi s'il nous entend.
Ouais.
Je pense fort à lui d'ailleurs. Et...
D'accord.
Et je lui dis un gros merde, voilà.
Ok, en espérant qu'il entende, mais bon, entendra. Cette émission, elle est tellement mondialement connue que il entendra forcément.
Voilà, et puis après, celui qui a beaucoup joué pour que je sois à Grenoble au centre de formation, c'était Daniel Chichilan.
D'accord.
Voilà, maintenant qui est recruteur aussi pour pas mal de clubs, et je crois pour Saint-Etienne, je crois, pas dire de bêtises, c'est ça.
Ah, quand même.
Voilà, okay. Donc il a eu un gros...
Il a joué un gros rôle
pour que je sois là, quoi, voilà. Après, j'ai eu des bons feelings avec Olivier Saragaglia, Bernard Blacard, Patrick Cordoba.
Ouais.
Donc après, j'ai jamais eu spécialement de tension avec mes coachs en centre de formation.
D'accord. Ok, ça marche. Et tu es parti après Annecy, c'est ça?
Après,
après Grenoble.
Grenoble en CFA, ouais, ouais, ouais. Je suis parti à Annecy. Mmh. Écoute, c'était un moment où on avait franchi le palier en national.
Ouais.
Il y a eu ce même pas un conflit avec Guéguen. Il y avait ce non-retour, je pense, de l'un comme de l'autre.
D'accord.
Et puis, ça m'a fait mal au cœur parce que c'était au moment où le club franchissait le palier que j'attendais depuis un moment.
Ouais. Mais c'est le club qui n'est pas revenu vers toi et toi, tu n'es pas revenu vers le club.
Non, j'étais encore sous contrat. Hein.
Ah, t'étais encore sous contrat.
J'étais encore sous contrat. De mémoire, il me restait encore 3 ans, je crois, je ne vais pas dire de bêtises.
Ouais.
Mais voilà, avec ma sincérité, ma franchise et mon honnêteté pour le club, je ne me voyais pas faire la saison que j'avais subie pendant cette année-là. Quoi.
Parce que tu n'avais pas beaucoup joué?
Bah si, j'avais tout commencé, j'avais même été au début capitaine aussi, il m'avait donné des responsabilités, puis après il y a eu les blessures. Après, quand un effectif tourne et que ça marche, il n'y a pas de raison de changer, donc ça je n'en tiens pas rigueur non plus, mais voilà, à la fin il y a eu 2-3 trucs qui ne sont pas passés, et puis pour être poli, je ne voulais pas chier sur mon club, et j'ai préféré changer d'air, et voilà.
D'accord, ok. Et du coup, Annecy, comment ça s'est passé après?
Bah, Annecy, c'était, écoute, un club tout autant que Grenoble, vraiment familial, vraiment cool, vraiment bon esprit, tu vois, avec des bons projets. Franchement, il n'y avait rien à en redire. Le problème, c'est que tous les jours, je faisais les allers-retours.
Ouais.
Et à force, bah, ton corps, c'est triste, mais ton corps, il ne suivait pas. Donc, j'ai enchaîné une blessure de 4 mois, je crois.
Parce que tu es resté, en fait, tu habitais toujours dans Grenoble.
Je faisais tous les jours la route avec Nassim Macro.
Ouais. Ah oui, Nassim.
La route ensemble et tout. D'accord. Les voyages étaient sympas, on avait le temps de rigoler, mais c'est vrai que des allers-retours, 1h30, on va dire, je faisais au moins 3 heures de route pour un entraînement et des trucs comme ça, c'était compliqué. J'ai tenu 1 an et demi et je sentais que physiquement, humainement, sportivement, les blessures. C'était plus moi et j'étais tombé sur des hommes et des gens très respectueux. Et en fait, je ne voulais pas leur rendre ce que je leur donnais. Donc, on a préféré couper comme ça et puis c'était mieux comme ça. Quoi.
D'accord, ok. Et donc après, la suite, parce que du coup, la page Wikipédia s'arrête à Annecy en 2017. Et pour Wikipédia, tu es toujours joueur de Annecy.
C'est déjà pas mal, c'est gentil. Ouais.
Tu as déjà une page Wikipédia. Moi, j'aimerais bien avoir la mienne.
Et ben après, la suite, c'est quoi? C'est que la suite, j'étais. Après cet épisode à Annecy, j'avais eu des propositions dans le sud, en CFA, des trucs comme ça et tout. Et je voulais vraiment couper football. C'est-à-dire, les dernières années, plus les blessures, plus pas le manque de confiance, mais plus le plaisir. C'est-à-dire, pas de l'amour, parce que l'amour, j'aurais toujours l'amour pour le football. Je suis avec, donc l'amour, j'aurais toujours. Mais j'avais plus d'adrénaline et ce qui me faisait me lever tous les jours pour aller au foot. Quoi.
D'accord.
Donc,
okay.
Du coup, j'ai dit bah, je coupe et j'ai fait quoi? J'ai fait 6 mois, je crois. 6 mois blancs.
Ouais.
Après, Matt, il est arrivé un jour. Puis, en tant que grand frère, il a pris la température petit à petit. Puis, il a réussi à m'emmener dans son filet. Quoi.
Ouais. Assassiné, du coup.
Assassiné, voilà. Ouais. Tu vois. Donc, c'était une belle aventure. C'était toujours. Mais c'était au début, il m'a amené ça comme un petit truc sympa à faire, à réaliser. Voilà, on est en R2, on essaie de se maintenir. Puis la saison, elle commence, tu gagnes. Puis bon, tu reprends plaisir à t'entraîner, tu reprends plaisir à jouer. Tu rejoues à ton poste, parce que du coup, je peux rejouer au milieu de terrain.
Ouais.
Et puis petit à petit, bah, tu te remets en mode compétition. Et puis ça fait 1 an et demi que j'ai plus une blessure. Et 1 an et demi que je reprends du plaisir à jouer au football.
Ah bah tu vois, comme quoi, des fois, il n'y a pas de secret. Hein.
Voilà, ça rien d'avoir des diplômes.
Bon, Mathieu, qu'est-ce que tu lui as dit, toi, pour le convaincre?
Il m'a endormi, moi.
Ah bah, pas... je sais comment il est. Attends.
Non, qu'est-ce que je lui ai dit? Je connaissais sa situation à ce moment-là et il l'a parfaitement résumé. Hugo a toujours eu... Hugo, c'est quelqu'un de très famille, donc il a toujours eu cette dualité entre sa vie familiale et sa vie professionnelle.
Ouais. Voilà.
Aujourd'hui, il a fait des choix qui sont toujours allés vers sa famille. Je ne le voyais pas couper du jour au lendemain sans faire de foot. Là, il dit ça, mais les jambes avaient quand même des fourmis hein, quand on a commencé à se parler après 6 mois, tu l'imagines. Je pense que c'était un défi pour les deux, parce que moi, en tant qu'entraîneur, ça m'a aussi fait gérer un aspect de joueur que je n'avais jamais géré.
Vous aviez jamais travaillé ensemble?
Jamais, non. Alors, je l'avais beaucoup vu s'entraîner et beaucoup vu jouer, forcément. Mais j'avais juste la vision, finalement, un peu extérieure qu'ont les gens d'Hugo. C'est-à-dire ce garçon très généreux, mais dans tous les sens du terme. Voilà, Hugo, s'il doit te dire merde, il te dit merde. Et par contre, pour qu'il arrive à cette situation-là, c'est qu'il faut pousser. Donc au départ, tout le monde nous voyait un avenir très court. Tout le monde était persuadé que ce serait compliqué. Et moi, je trouve que ce qui m'a apporté dans la façon de manager et ce qu'il a apporté au groupe dans la façon d'appréhender la compétition, je trouve que pour un groupe amateur, d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui a ce vécu et qu'il le transmette, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est 10 fois plus fort que ce que peut amener un entraîneur dans un discours. Voilà, ouais. ça a changé des attitudes, ça a donné de la confiance au groupe. Moi, c'est ce que j'ai le plus ressenti. Et moi, ça m'a aussi appris à faire la part des choses entre comment on tire le meilleur d'un joueur dans sa faculté, à faire la part des choses entre ce qu'il fait en termes de performance et ce qu'il donne en tant qu'investissement. Hugo, c'est quelqu'un qui, jusqu'au premier Covid, a loupé très peu de séances. Quelques-unes en été sur la prépa, mais sinon, qui a loupé très peu de séances, d'ailleurs, au grand étonnement de tout le monde. C'est-à-dire que je ne sais même pas si, au final, les gens ne se font pas des idées, au final, sur ça signe, ça vient donner un nom, mais on ne le verra jamais. Donc, il est beaucoup venu s'entraîner, mais c'est sûr que ce n'est pas le mec qui va, dans la séance, il va plus se brancher, il va plus amener cet aspect et compétition et ludique. Et tant qu'il gagne, il sera de bonne humeur. Dès qu'il va perdre ou prendre un jeton, il va en mettre un aussi. Mais voilà, c'est pas le garçon. Tu le vois à l'entraînement, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire le week-end au match. Ça va être compliqué. Mais Hugo, il met tout le monde d'accord par ses performances. Voilà. Et je pense que ce qui était un peu moins possible au niveau professionnel par moment, et ça, je peux l'entendre, mais je pense que les entraîneurs aussi professionnels aujourd'hui sont dans une pression telle qu'ils n'ont plus le temps de faire ce management. Moi, je me souviens de témoignages sur des joueurs comme Ludovic Juli ou Didier Deschamps disait le premier, il y a des fois où je ne le faisais même pas s'entraîner parce que je sais qu'il n'aime pas ça. Et cette séance-là, je lui disais, c'est mieux que tu restes chez toi ou que tu vas en salle plutôt que de me pourrir la séance. Mais il savait qu'il allait être bon le week-end. Donc, Hugo m'a aussi donné cette facette où tu gagnes aussi ta légitimité dans ton investissement en tant qu'homme. D'accord. Et aussi sur tes performances terrain. Et moi, je trouve que c'est pour le groupe, vraiment, les joueurs qui ont vécu ça pendant un an et demi, ils ont progressé beaucoup.
Donc, parce que tu es arrivé en courte saison, Hugo?
Non,
t'es arrivé au début.
Là, le et demi, c'est les 6 mois de Covid. Là.
D'accord, là. Ok.
J'ai le compte quand même.
Non, d'accord. Et quand moi, au niveau communication avec ton groupe, Mathieu, quand tu fais apprendre à tes joueurs du coup que ton frère va arriver, comment toi tu gères justement l'aspect famille dans le groupe? Parce que bon, même si Hugo c'est un ancien pro, il est bon, etc. Tu sais, on peut toujours faire des petits raccourcis. Ouais, mais il va le faire jouer parce que c'est son frère. Ou du coup, vu qu'il est allé le chercher, il a dû lui promettre des choses en interne, en termes de statut, j'en sais rien. Comment t'as géré ça?
Alors, je sais pas si la question s'est posée chez les joueurs parce que l'expérience et le vécu d'Hugo étaient tellement grands par rapport au niveau auquel on pratique que dans un premier temps, ils étaient tous très contents de sa signature. Je me souviens très bien d'une anecdote marquante, comme sur la prépa, il était parti en congé pendant 15 jours ou 3 semaines. La première journée de championnat, je conviens avec lui, je lui explique que je ne le prendrai pas dans le groupe. On se déplaçait à Créaou, je me souviens très bien que je ne le prendrai pas parce que la prépa n'a pas été assez longue, qu'on servirait du premier match de Coupe de France pour remettre en route. Voilà, ce qui comprend très bien et tout va bien à ce moment-là. Et quand des joueurs apprennent dans la semaine que je ne vais pas le prendre ou qu'ils le voient un peu dans les oppositions, on vient me dire, faut le mettre dans le groupe, même remplaçant, mais faut le mettre dans le groupe, tu vois. Et à force de discussion avec les joueurs, si tu veux, bah il y a une blessure dans la semaine d'un garçon qui devait être à ce poste-là dans le groupe, qui fait qu'il peut rentrer dans le groupe. Et si tu veux, tu vois sur la réaction des garçons que c'est plus eux qui avaient tendance à pousser, mais parce qu'il leur apportait cette confiance. Tu vois, c'est presque psychologique à ce moment-là. Maintenant, sur la relation familiale, elle ne se ressent pas parce que sous ma carapace de méchant qu'on veut me donner par moment...
Oh, j'y crois pas une seconde.
Non, mais tu sais, il y a ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Moi, les joueurs, c'est... alors, maintenant, les seniors, c'est presque des âges de relations de fratrie, mais j'ai toujours considéré mes joueurs presque comme... qui pourraient être mes enfants. Voilà. Ouais. Moi, mes joueurs, on n'y touche pas, je les protège. Mmh. Je suis dur avec eux, mais je les protège. Et, mmh. et la relation que j'ai de proximité avec Hugo, au-delà du lien du sang, je pourrais avoir, j'ai exactement la même avec certains D'accord. joueurs. Voilà. Mmh. C'est, y a pas là-dessus, il n'y a pas de différence et ils le savent très bien.
Moi, j'ai posé des questions assez perso, hein, vous me dites si je vais trop loin, mais je voulais savoir, Hugo, si toi, pendant ta carrière, est-ce que Mathieu t'a conseillé? Est-ce que tu lui as demandé des conseils? Je ne sais pas, même si Mathieu, sauf erreur de ma part, tu n'as pas été professionnel?
Pas encore, bientôt. Bientôt, mais pas.
Mais est-ce que quand même, parce que bon, est-ce que en tant que, je sais pas, en tant que frère, est-ce que tu es allé chercher aussi des conseils à un moment donné dans ta carrière? Il t'a donné son avis ou pas?
Niveau football, il ne m'a jamais conseillé sur un truc où il faut faire ça, il faut jouer comme ça, il faut faire ci, machin et tout. Après, depuis petit, bah, c'est vrai, depuis, je crois que à l'époque, c'était Benjamin.
Oui.
Il était toujours là autour des stades. Une petite anecdote, par exemple, quand tu faisais les tournois internationaux, par exemple des Chiroles.
Oui.
Eh ben, il pouvait te dire quelle équipe avait gagné, combien il fallait mettre au prochain match pour se qualifier.
Ah, d'accord.
Donc, niveau ça, il a toujours suivi. Après, arrivé, on a 2 ans d'écart. Donc, après un moment, moi, je n'avais pas le permis. Il m'a beaucoup souvent emmené aux entraînements en Ligue 1. Mmh. Il restait là. Mais il ne m'a jamais poussé au point de me dire tu seras un grand joueur, tu seras un machin. Et par contre, c'est quelqu'un, tu voyais, c'était un amoureux du football, qui était content d'être présent en séance, qui était content d'être au match, mais jamais dans l'excès à dire « t'as fait un bon match, t'as fait un mauvais match », tu vois.
Ouais.
Il a toujours pris son recul et il a toujours été présent pour moi, mais en tant que frère, et pas en tant que... En tant que frère et passionné, mais pas en tant que « faut que tu sois une star » ou machin. Mmh. Et je pense que ça m'a fait énormément de bien. Ouais.
Parce que je trouve qu'on voit ça de plus en plus... on appelle ça l'entourage.
Ah, les gens, ils sont devenus complètement
et les gens, je trouve que maintenant, c'est vrai que quand on demande des fois à des joueurs, on a l'impression de voir vite une bande autour d'eux, alors que il y a censé avoir qu'un agent. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est pas que c'est. Bon, après, si les gens arrivent à avoir ce qu'ils veulent et à progresser tranquillement et à mener des discussions sereinement, c'est une chose. Mais c'est vrai que c'est un peu plus problématique quand ça prend de trop grandes proportions, quoi.
Bah maintenant, malheureusement, c'est que tu le vois même autour des enfants.
Mais bien sûr.
Voilà. Donc la question, c'est est-ce que le problème vient des enfants ou vient des parents?
Ouais, c'est ça.
Moi, je te dirais que ça vient des parents.
Bah, je suis un peu d'accord avec toi.
Et après, je pense que tout ça vient à cause de quoi? Bah, beaucoup des médias.
Ouais.
Parce que bah, quand les parents ils se disent « Ah, peut-être que mon fils va être un Mbappé » ou « Peut-être que ça va être ça », et bah, malheureusement, dans la conjoncture où tu es à l'heure actuelle, et bah, ils perdent tous le cerveau.
Ouais.
Et je pense que si je peux faire passer le message, c'est vraiment pas aider vos enfants. Quoi.
Ouais, ouais. Bah écoute, voilà. Ça, c'est le conseil de monsieur Hugo Sciancy. Tu as parlé, Hugo, de Nassim Akrour, bon, qui est peut-être le joueur légendaire du GF 38. Comment il était dans le. D'ailleurs, il joue toujours.
À Chambéry.
comment il était à l'entraînement? Comment c'était quel type d'homme, de joueur?
Bah Anas, moi, vous aurez que des bons échos.
Ouais.
Voilà, moi, pour moi, c'est comme un grand frère, un papy. Ouais, je l'appelle papy, tu vois. Parce que bah, 45 balais, il court encore. Ouais. Il a futé.
Mais il a futé encore. Hein.
Il a futé mieux que personne. Voilà. Puis bah humainement et sur le sportif, et tout ce que tu veux, c'est.
Ouais.
C'est une personne exceptionnelle, quoi. Voilà.
Ouais. Bon, c'est vrai qu'on peut difficilement dire du mal de lui. Quand un joueur joue jusqu'à encore un niveau quand même qui est important à son âge, c'est quand même. Puis même, je trouve que c'est quelqu'un. Quand on l'écoute un peu en interview, je trouve que c'est quelqu'un qui est riche, quoi. Il est. On apprend un petit peu des choses. Il a une vision de la vie qui donne une bonne image. Moi, j'apprécie beaucoup ces joueurs, qu'ils soient semi-pro, pro, anciens pro, qui donnent une bonne image du sport. Je trouve qu'aujourd'hui, le foot est trop gangréné par des joueurs professionnels ou même amateurs qui donnent une mauvaise image parce que bah, ils ont des déclarations ou ils ont des attitudes en dehors du terrain ou même sur le terrain qui sont parfois un petit peu trop limites. Donc oui, c'est vrai, moi je suis un petit peu d'accord avec toi, même si je ne le connais pas aussi bien que toi. Mais il est pour moi une belle image et pour Grenoble et pour le foot. Je suis assez d'accord. Bon, mais on a quand même balayé pas mal de choses. Moi, la dernière question que je vais te poser, Hugo, avant de passer aux questions-réponses, c'est tu as 31 ans. c'est ça?
Bah, si tu le dis, je te crois. Ouais. Moi, je n'ai plus mes années.
C'est vrai? Non, attends. Oh. C'est pas une insulte. Hein. Non. T'as 31 ans. Comment tu vois la suite?
La suite au niveau football?
Ouais.
Bah, écoute, tant que je suis dans ce plaisir et cette envie de continuer à jouer au football, surtout retrouver cette envie que j'avais perdue, ça m'a fait énormément de bien.
Ouais.
En plus de ça, il y a eu la montée aussi qui a fait que ça te fait du bien mentalement. Et derrière, j'ai surtout plus de blessures. Donc, tant que je serai dans ce plaisir et dans cette envie, je ne dis pas que je vais faire une Nassim Agrour, hein, mais si je peux encore faire 2, 3, 4 ans, tant que je prends du plaisir, c'est l'essentiel. Quoi, voilà.
Et avec Mathieu, toujours ou pas?
C'est lui le coach. Hein.
C'est ouais, t'as une sacrée responsabilité, Mathieu, tu te rends compte?
Des fois, c'est lui qui va me dire je te prends plus. Et je dirais merci, coach, et au revoir.
Ben, Mathieu, tu penses qu'il a encore combien de temps, Hugo? Combien d'années?
Hugo, il dépend des gens qu'il a autour de lui, donc je ne sais pas. Ouais. Hugo, il fonctionne au cœur. Il pourrait jouer très longtemps s'il est autour de gens qui lui donnent envie. Et voilà, je crois qu'il a tout dit. Tant qu'on aura des gens dans ce sport qui donnent envie, mais je crois que c'est valable dans tous les aspects de notre société, faut qu'on retrouve des gens qui arrivent à impulser de l'envie chez les autres. Tu vois, je pensais à un corps de métier en te disant ça, les enseignants, les instituts, par exemple, qui sont les premiers au contact de nos enfants. Je crois que nous, c'est un peu pareil. On est précurseur de ça et aujourd'hui, j'ai au moins une fierté derrière moi. Alors, je ne sais pas combien de temps ce sera avec Hugo, ni avec les merveilleux joueurs qui m'entourent actuellement. Mais en tout cas, je sais que partout où j'ai pu entraîner et partout où j'entraînerai à l'avenir, j'attirerai des joueurs qui ont envie de prendre du plaisir. Voilà. Ouais. Et ça, je suis content au moins d'avoir cette étiquette. C'est une des plus belles qu'on pouvait me coller. Ça me fait oublier toutes les autres. Donc, je suis ravi qu'il ait utilisé ce mot plusieurs fois aujourd'hui.
Bon, bah, écoute, c'est super. Hugo, une dernière question, parce que je voulais te la poser déjà. Tu as le droit de ne pas me répondre. Hein. Mais,
je réponds à tout, moi.
Tu réponds à tout. Pourquoi tu es aussi discret aujourd'hui dans les médias, c'est un bien grand mot, mais pourquoi tu t'exprimes aussi peu?
Bah, d'une, parce que j'ai pris énormément de recul par rapport au football.
Ouais.
Puis bah, c'est vrai que quand j'ai coupé, il y en a beaucoup qui ont essayé d'avoir des articles, des machins. Je vais pas leur dire que je leur ai donné assez à manger, parce que ça serait ça serait me suicider un peu. Mais je te dis, je suis quelqu'un de franc, donc je pense que...
Il y a eu des articles qui sont sortis sur toi qui ne t'ont pas plu?
Pas spécialement, je vais pas dire pas plus, parce que si ces articles-là sont sortis, c'est qu'à un moment ou à un autre, peut-être que mes actes n'ont pas été bons. Mais je pense que les formules et les façons de les tourner, ça peut braquer. Après, c'est ce que j'ai dit, ça fait partie du jeu.
Ouais.
Tu vois, donc après j'ai accepté. Mais quand j'étais encore à Grenoble ou à Annecy, bah, j'étais payé pour ça.
Ouais.
Donc, si on me demandait un article ou quelque chose, bah, j'étais obligé de le faire. Et à partir du moment où je sais que je ne suis plus rémunéré et que je ne dois plus rien à personne, si j'ai pas envie de répondre, je ne répondrai pas. Quoi, voilà.
Ça doit être difficile aussi, moi, je trouve, comme exercice, parce que quand je l'ai dit un petit peu avant l'émission, mais c'est vrai que nous, quand on essaye d'avoir des joueurs du GF38 à la radio, c'est très compliqué, non pas pour les arbres, parce qu'on nous en envoie assez facilement, et on remercie le club du GF38 pour ça, mais c'est vrai que du coup, on est tellement briefé sur l'interview, que du coup, bah, c'est compliqué, puis on a l'impression qu'en face, on a quelqu'un qui est formaté pour répondre aux questions, et c'est, je sais pas, je me mets à la place à la fois de l'intervieweur, c'est pas forcément facile à préparer, et puis à la place du joueur, qui lui, du coup, bah, on se déplace un peu par obligation, et puis surtout qu'en plus, bah, surtout pour quelqu'un de franc comme toi, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui dit les choses, bah, ça ne doit pas être facile non plus, et ni être plaisant, pour le coup, de ne pas être libre de dire un petit peu des choses, même sans dire de dire forcément du mal, mais de dire un petit peu ce qu'on ressent. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc Hugo, on va passer à la partie questions-réponses. On a un jingle pour ça, c'est le jingle du questions-réponses.
Rien à foutre, le question-réponse.
Ça en jette, hein.
Le rien à foutre.
Non, quand même. Oh.
Un an d'émission, ça se voit. Oh.
T'as vu ça? Maintenant, ah, j'ai 3 secondes de jingle en plus.
Je suis venu fêter un anniversaire, il n'y a pas de gâteau, j'aurais au moins entendu des jingles. Parce que je m'attendais à un gâteau quand même.
Ouais, mais tu sais, c'est compliqué.
Je vois.
Les gâteaux, etc., le je Covid, hein, ah, la radio ouais. aussi qui souffre beaucoup de cette situation. Bon, alors les questions, tu sais, c'est un petit peu des questions un peu faciles pour quelqu'un de transparent comme toi. Moi, j'aimerais bien savoir déjà quel est ton club de cœur.
Grenoble.
Grenoble. Il n'y a que Grenoble.
Il n'y a que Grenoble.
Et il n'y aura que Grenoble.
Et il n'y aura que Grenoble.
Bon, c'est très bien. Bonne réponse. Quel est le joueur, quand tu étais jeune, enfant ou ado, qui t'a donné envie de devenir pro ou de faire tout simplement du foot?
J'en ai eu pas mal, mais c'est vrai qu'il y a eu Maldini.
Ouais.
Il y a eu Roberto Baggio. On est beaucoup sur le côté italien, mais...
Ouais, mais tu sais, j'ai de l'habitude avec ton frère. Ouais, puis ici, t'es bien, parce que moi, je suis 100%.
C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'idoles. Et...
Ouais.
Et bah, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était les yeux qui brillaient, quoi.
Ouais, bah, Baggio, c'est peut-être le dernier grand talent italien, peut-être qu'il y a eu, du moins, à ce poste-là, on n'en a pas eu... Enfin, je trouve que Del Piero, Totti, c'était des très grands joueurs aussi, mais,
ouais,
mais Baggio, il avait quelque chose de plus.
Ah, hein, c'est quand ça. Même.
Ok, est-ce qu'il y a un joueur maintenant à l'heure actuelle qui t'impressionne tout particulièrement?
À l'heure actuelle?
Ouais.
Ça va être compliqué parce que le football
professionnel, tu regardes plus.
Bien décroché. Ouais,
c'est vrai, tu regardes plus.
Bah encore plus là avec leur stade vide. Et,
ouais. ouais, c'est vrai.
Après, sur ça, j'ai vraiment déconnecté, mais on va dire pas pour être comme tout le monde, mais. C'est, on va dire, N'Golo Kanté, parce que bah, d'où il vient et ce qu'il fait, bah, tu trouves que c'est exceptionnel, parce qu'il montre à tout le monde que tu peux partir de très 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 loin et d'être très 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 haut, en étant tout discret, en travaillant et en étant égal à toi-même. Et puis après, bah, si tu veux une pépite, je te dirais pas Messi, je te dirais pas Ronaldo, mais plus le défenseur de Liverpool. Là,
qui est Van Dijk?
Ouais, et le latéral droit aussi.
Ouais, Alexander Arnold.
Voilà, exactement. Je trouve que bah, centre de formation.
Ouais.
Il a un chemin, je crois, encore hier, je crois que je voyais un article comme quoi il était arrivé à Liverpool à l'âge de 12 ou 13 ans.
Ouais.
Et qu'il a fait toutes ses gammes là-bas. Ouais. Et quand tu vois les prestations qu'il a fait depuis quelques années.
Puis là, l'explosion, le niveau, la palette qu'il a. Parce qu'il sait tout faire.
En 2 ou 3 ans, il a gagné énormément de trophées.
Il ouais, n'y a pas de hasard.
Je te partirais sur un joueur comme ça.
Tu sais, Mathieu, cette question que je pose des joueurs, elle paraît anodine comme ça, mais plus je la pose et plus je me dis, dis-moi quel joueur tu aimes et je te dirai un peu qui tu es. Parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses sur qui on est, quel footballeur on est ou on aimerait être et quel football on aime. Et moi, les gens qui me répondent, tu vois, des joueurs comme N'Golo Kanté, par exemple, tu vois, je me sens bien parce que je me dis, ah bah voilà, tu vois, c'est des joueurs un peu de l'ombre, mais c'est des joueurs de foot qui sont tellement plaisants à voir parce qu'ils se donnent à fond, parce que ils sont généreux sur le terrain, ils pensent pas qu'à eux, c'est pas des figures marketing plus qu'autre chose. Et pour le coup, je trouve pas que ce soit anodin. On me l'a cité 2 ou 3 fois, N'Golo Kanté, dans l'émission. Même, t'as parlé après de Maldini, de Baggio, tu me parles d'Alexander Arnold, de Van Dijk. C'est vrai que c'est, d'habitude, on me cite toujours les mêmes. On me cite Mbappé, on me cite, je sais pas, on cite plein. Voilà. Mais Mbappé, ça revient souvent.
Neymar, les Messi.
Les Messi, les Ronaldo. Donc c'est vrai que enfin, pour moi, en tout cas, ça évoque quelque chose. Donc bah, je te remercie de citer des joueurs comme ça. Bon, la prochaine question, forcément, elle vient un petit peu à contre-courant de ce que je viens de dire. Tu es plutôt CR7 ou Messi?
Eh ben, Messi, c'est talent pur.
Ouais.
Et CR7, c'est talent, mais avec beaucoup de boulot.
C'est le Nassim Akrour level supérieur, CR7 ou pas?
Ouais, Nassim, c'était pas le boulot. Nassim, c'était question hygiène et question... voilà. Après, il avait ses talents, mais c'est pas été non plus quelqu'un qui s'est... Ronaldo, tu lis 2-3 articles à 3-4 heures du matin, il peut partir en salle de muscu ou il peut partir courir. voilà, Nassim, il était quand même pas à ce point-là non plus. Voilà.
Ouais.
Mais on va dire, si y en a un à choisir entre des deux, moi, je pencherais pour le côté Messi parce que c'est le pur talent. Quoi. C'est... On va dire, je ne me retrouve pas en Messi. Hein.
Oui, mais j'ai bien compris.
Ma carrière a été plus sur des acquis comme lui que de bosser.
D'accord. Tu es d'accord avec ça, Mathieu ?
Non. Je suis d'accord avec son constat, forcément. Mais en tout cas, non, moi, j'aime la mentalité de l'un et j'aime pas la mentalité de l'autre.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc,
Messi, t'aimes pas ?
J'aime pas. Après, est-ce qu'il lui rend service dans la communication au niveau des médias et autres ? Je sais pas. Mais en tout cas, tu sens que dès quand ça marche un peu moins bien, c'est celui qui va semer la division. Là où Ronaldo, dès qu'il y a un moment de moins bien, il va montrer son mécontentement, mais il va rassembler. Voilà. Et moi, cette notion-là m'est plus familière que celle de la division. Après,
Voilà, la différence qu'il y a entre les deux, et je rejoins un peu ce que tu dis, c'est vraiment dans deux situations équivalentes, c'est-à-dire quand son équipe va mal, quand l'équipe est malmenée, quand l'équipe souffre, on a vraiment deux joueurs totalement différents. C'est-à-dire qu'il y a Ronaldo qui va courir de partout, qui va essayer peut-être d'être un peu plus individualiste, mais qui va essayer au moins de se battre un petit peu pour sauver la situation. Et t'as Messi qui s'il pouvait s'enterrer six pieds sous terre à chaque fois, il le ferait. Et c'est ça que je trouve... Alors, à part les discussions sur le talent, etc., qui moi ne m'intéressent pas, mais sur l'attitude, en tout cas, de joueurs, et notamment de leaders, parce que c'est de très grands joueurs, je trouve qu'il y a vraiment un grand fossé entre les deux. Bon, forcément, après, moi, je suis pour la Juve, donc je pense, pas critiquer Ronaldo. Mais...
Kev, je pense que notre jugement leur touche pas trop.
Non ! Je sais, ils nous écoutent pas encore. Mais...
T'inquiète pas, que ils ont fait leur carrière et félicitations à eux.
C'est sûr. Dernière question, mon petit Hugo. Fin de carrière, tu seras plutôt entraîneur comme le frérot ou supporter du genre à accompagner encore je sais pas, tes enfants jouer ou rester sur le bord du terrain pour regarder un bon petit match de foot
Ouais, moi je serais plus dans cette optique-là. Ouais,
ouais, tu te vois pas entraîneur ?
Du tout.
Ça te donne pas envie pourtant, t'as un bel exemple là avec
c'est
toi.
Ouais, mais c'est du boulot, c'est des cheveux blancs.
Oui, il en a pas beaucoup, là, tu vois, je vois bien ses cheveux, Mathieu, tu les caches bien.
C'est le gel.
C'est le gel.
Mais tu vois les kilos par contre.
Non, mais tu vois, c'est vraiment pas un truc qui m'a.
Ouais.
Qui pourrait me plaire ou je me verrais bien partir dans ça, tu vois. Par contre, continuer à aller voir des matchs de foot. Si un jour j'ai un garçon, pourquoi pas l'emmener, ça sera avec grand plaisir. Et je pourrais garder contact avec le football, mais je ne me vois pas du tout entraîneur. Quoi.
D'accord, bon, mais c'est pas grave. Hein.
Bon, il a raison.
T'as pas tout réussi, Mathieu.
Non, mais il a raison, il y en aura de moins en moins dans le football des entraîneurs, même des éducateurs.
Tu penses ?
Ouais, tant que la société sera attendue comme ça. Aujourd'hui, tu prends pas un joueur, t'as l'impression de l'avoir trahi, de l'avoir tué. Tu le prends, mais il est remplaçant, ça va encore pas. Il débute mal, tu le changes, tu l'as encore tué. Enfin, c'est des choix qui sont. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train d'être dans une société. Alors, j'ai une petite pensée quand même hommage parce qu'on l'a pas cité et on parle de foot amateur aujourd'hui au président Muffat Joly.
Oui, bien sûr.
Qui est parti cette semaine. Je trouve qu'on a du respect pour les gens et pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui dans cette société, une fois qu'ils décèdent
c'est
ou qu'ils laissent leur place.
T'as raison.
Et c'est un sentiment qui me fout la gerbe actuellement. Dès que quelqu'un décède ou dès que quelqu'un laisse sa place à un suivant, tu vois, je pense aux supporters d'Arsenal aujourd'hui qui sont en train de bouffer un peu leur merde. Quand tu vois les propos qu'ils ont pu avoir avec un mec comme Arsène Wenger qui a fait de ce club,
ce qu'il en a fait, et tu vois
les résultats depuis.
Depuis qu'il est parti.
Voilà, donc je trouve qu'on est dans un... Au-delà du football, dans une société où tant qu'on n'est pas mort ou tant qu'on ne disparaît pas de la scène, je sais que je...
C'est peut-être plutôt qu'on cultive l'instant présent. C'est-à-dire qu'on vit l'instant présent sans forcément se préoccuper de ce qui s'est passé avant.
En fait, on cherche ce qui ne va pas dans ce que fait l'autre et comment à un moment on pourrait le déstabiliser. Moi, je sais que par exemple, je serais un bon entraîneur dans l'histoire de Cessiné le jour où j'aurais laissé ma place à Cessiné. Enfin, c'est comme ça, c'est triste à dire. Mais... Et je retrouverai des gens qui me détestaient ces derniers temps, qui m'apprécieront le jour où je ne serai plus à cette place-là. Et je trouve que c'est le jeu de cette société. Et c'est ce qui fait que tu verras que des entraîneurs, il n'y en aura plus beaucoup parce que Hugo l'a dit, c'est du travail. Mais à la limite, se fatiguer sur du football quand c'est ta passion, ça va. Se fatiguer et avoir des regards de croix où tu ne sais même pas si tu vas dire bonjour à la personne ou si elle va juste, elle, te dire bonjour parce que tu as fait un choix à un moment ou que machin. ça pèse et c'est vraiment pas un sentiment agréable. Donc moi c'est un peu le coup de gueule du moment, tu vois, j'ai l'impression. Mais bon, après il y en a qui seront heureux là-dedans indéfiniment et voilà, mais je pense que oui, t'en auras de moins en moins parce que ce sera de plus en plus tendu.
Mais de toute façon, moi je vois même autour de moi des entraîneurs qui sont éducateurs depuis très longtemps et qui se lassent parce que justement, peut-être ils ont vu l'évolution des mentalités. Moi, tu sais, j'ai raconté, je crois, une fois dans cette émission, une anecdote que j'ai eue juste avant de démarrer la saison 2020-2021 avec mon club. Et je me souviens, on a fait un peu le tour de tous les joueurs après la saison particulière qu'on avait eue pour voir s'ils repartaient ou pas l'année suivante. Donc, pour 2020-2021, on les a tous rencontrés. Bon. C'est vrai que 80% d'entre eux nous ont dit oui, bien sûr, qu'on est là, on sera là, il n'y a pas de souci, on est motivé. Et puis, tu en as toujours deux ou trois. Et moi, ça me sidère parce que j'ai l'impression de ne pas être entraîneur d'un club amateur quand on me dit ça. Et on vient de voir, on te dit, c'est quoi l'objectif cette année? Est-ce que vous allez monter une équipe suffisamment forte pour que moi je vienne? Mais je te jure que c'était... Je déforme à peine les propos. Et moi, quand on me dit ça, je tombe de ma chaise. Et je me dis, mais le mec, il a 15 ans. Et il joue en amateur, il n'a absolument pas le niveau ni pour jouer plus haut que ce que je lui propose. Et même si c'était le cas, un peu d'humilité quand même. Et tu te dis, mais... Et il te tient un propos comme ça, quoi. Mais tu te dis, mais ça ne va pas du tout.
Ça va être un problème récurrent, Kev. Tu auras des joueurs de plus en plus exigeants, parce que c'est comme ça, quel que soit l'âge, ils sont formatés à ça maintenant. Et tu as des dirigeants de plus en plus fatigués. Et je trouve quand même, alors peut-être parce qu'ils ont de moins en moins de temps, de moins en moins aussi investis parce qu'ils ne voient pas l'issue à tout ça, entre des collectivités qui peuvent de moins en moins suivre, du partenariat privé qui est de plus en plus compliqué et le manque de bénévoles. Moi, je sais que je suis un entraîneur très exigeant avec la structure dans laquelle je suis parce que j'ai besoin, je dis souvent, que ça sente la saucisse et la merguez. J'aime cette vie-là, cette convivialité. Donc, je suis exigeant sur ces choses-là. Là, après, je peux comprendre que des joueurs aient envie d'être dans une structure. Après, il y a des domaines, effectivement, où tu as raison, ça ne doit pas aller. Mais à cet égard-là, je trouve que Philippe Insberger, pour ne pas le citer,
fait un travail... On n'a pas parlé de Grenoble, on va en parler vite fait.
On n'a pas parlé de Grenoble, mais moi, j'en profite pour... C'est quelqu'un... On a souvent eu le débat avec Hugo, ça fait 2-3 ans là, qu'on dit qu'ils ont certainement trouvé l'homme pour la stabilité. Je trouve que ce que fait cet homme-là, dans le contexte où il est, en arrivant à tirer le maximum de force, en le faisant avec un aplomb sans lancer de polémique, alors que ce mec-là a aussi des fois perdu en fin de mercato des joueurs importants. Je pense à un mec comme Nchangama, je ne suis pas trop, mais j'avais vu quelques dossiers. Profond respect pour ce que font ces mecs-là quand tu vois certains gars sur le haut de la scène là, faire des polémiques. Tourelle qui n'arrive plus à faire une conférence de presse machin. Garcia qui va en envoyer une, machin. Les mecs entre présidents. Et t'as ces gens-là qui... à mon avis, font partie de l'ancienne génération, c'est qui sont des coachs qui sont au-dessus de la mêlée. Et aujourd'hui, si Grenoble marche, c'est parce que je suis sûr que chez les joueurs, il y a une sérénité, en plus des compétences sportives qu'il amène. Et malheureusement, ça devrait être ce type d'entraîneur l'avenir. Et on est en train d'aller sur une tendance où ces gens-là seront le passé. Et moi, je crois que je vais être nostalgique de ce passé. Et je le suis déjà un petit peu aujourd'hui.
Moi, je le suis aussi. C'est vrai, pourtant, je suis pas vieux. Hein.
Mais tu verras que des gens comme nous et d'autres dirigeants, de toute façon, laisseront la place à ces consommateurs. Et un jour, le foot finira par se manger de lui-même.
Bon, bah on va quand même parler de Grenoble rapidement. Super début de saison, quand même. Hugo, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas forcément me dire que oui.
Tu veux dire quoi, à part une fierté?
Ouais.
Fierté de voir les scores, fierté de voir ce qu'ils arrivent à reproduire sur le terrain. Voilà. Et il y a des secrets, il y a des trucs qui ne trompent pas dans une saison. Ils arrivent à prendre des points... même à la 89e, je crois, comme ça, à Châteauroux de mémoire. Ils étaient menés 1-0 à Chambly, ils arrivent à gagner 2-1.
Même là, ils font 0-0, je crois, je ne sais plus contre qui.
Hier, à Niort.
Voilà, contre Niort, ils ont marqué, je crois, à la 92e ou 89e.
Ouais, mais il y avait hors-jeu.
Mais bon, ils sont capables, justement, d'aller les chercher.
Sur hier, il a énormément fait tourner aussi le coach. Mais... parce que là, il y a quand même Sochaux et 3 qui va être un match décisif aussi, donc je pense qu'il a fait énormément tourner. Mais
ça va monter ou pas?
S'ils arrivent à nous garder ce rythme là, c'est tout le bonheur qu'on souhaite. Après, je pense que
est-ce que c'est rendre service de souhaiter la montée?
Tant que t'as pas de centre de formation, tant que t'as pas tout ça, de toute façon, c'est pas un sujet tabou, hein, on peut en parler parce que de toute façon, tout le monde le sait.
Bien sûr qu'on le sait.
Voilà, maintenant. Moi, pour les supporters, même pour les gens de la ville,
19e masse salariale de Ligue 1, de Ligue 2, pardon. Quand même, pas comme tu as dit, des structures quand même qui sont fragiles pour le moment. Un passé compliqué qui est quand même. Je sens quand même que dans ce club, quand j'entends parler de Max Marti, qu'on a peur de se faire rattraper par son passé et de recommettre peut-être les mêmes erreurs d'il n'y a pas si longtemps.
Tu as toujours peur, ça. Ouais. Non, mais ça, on peut l'entendre, on peut le comprendre. Après, quand tu as un œil avec du recul. Bon, t'as le supporter, lui, qui va dire bah, si on peut être premier, si on peut être deuxième, même si on peut arracher les 5 premières places, ce qui est normal, hein, c'est leur amour de leur club, ils veulent voir leur club en Ligue 1 au meilleur niveau, donc ça, tu vas pas leur en vouloir. Et depuis des années, que ce soit les RK, les Diables Bleus et tout le reste, ils ont toujours été derrière le club.
Oui, bien sûr.
Même en CFA, les mecs, ils n'ont jamais rien lâché, donc voilà, y a... pour eux, ça serait immense. Maintenant. Voir les structures pour le club, bah, c'est vrai que ça serait peut-être un peu compliqué, mais qui dit monter, dit plus de frais télé, de sponsors. Grenoble, on l'a bien vu quand on était en Ligue 1, tu avais des nouveaux sponsors et voilà, ça suit quoi. Et puis on voit bien un stade en Ligue 1 quand il y a Marseille, quand il y a Paris, quand il y a. Le stade, il est rempli donc. À Grenoble, ça demande pas grand-chose, ça demande d'évoluer.
Toi, tu penses que ça serait jouable, alors ?
Oh, moi, j'en reste sûr.
Mathieu, tu es plus sceptique.
Je pense que niveau structure, ça va être compliqué. Mais après, tu as quand même un président qui a quand même, voilà, qui détient quand même des fonds. Voilà. Après ça, c'est pas à moi. Mais
oui, oui.
C'est à lui, est-ce qu'il assumera, est-ce qu'il mettra. Voilà. Moi, je pense que... Il est parti de très bas et chaque année, ça monte. Et chaque année, il a ce tube. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, je sais que Max Marti a été beaucoup critiqué. Mais quand tu me dis si bien, tu as le 19e budget de Ligue 2. Même si, comme il a dit Matt, qu'à l'heure actuelle, pour nous, je pense que Grenoble, ils ont le top de coach. Il ne faut pas oublier tout le boulot que Max a mis en place depuis quelques années. Le président suit derrière aussi. Donc, si monter doit avoir, pourquoi ne monter ne serait pas bien pour le club, quoi, voilà.
Toi, Mathieu ?
Moi, je suis mitigé entre l'histoire et le futur. Je trouve que Grenoble fait partie de ces clubs où on a connu des montées-descentes. La seule chose que je reproche à ce club dans le passé, c'est que quand il descend très bas.
Ouais.
Voilà. Un club comme Troyes, quand il passe de Ligue 1 en Ligue 2, il reste en Ligue 2 longtemps et derrière, il remonte en Ligue 1. D'autres clubs ont été dans ce cas-là. Et puis, tu as les clubs comme Grenoble, Sedan, Bastia, où quand ça tombe bas. Par contre, je rejoins ton indice de masse salariale, la 19e. Je trouve que c'est d'une très grande intelligence. On est en train de jouer sur l'aspect passion, on dit que Grenoble c'est un club pauvre, comme ça au moins on sait que si demain typiquement la crise Covid fait mal, Grenoble fera partie des clubs qui seront encore debout. Le feu vert de la DNCG a été donné en 2 secondes, c'est que tout va bien, là où d'autres clubs, ne serait-ce qu'avec ce qui se passe sur les droits télé, risquent de souffrir. Donc je me dis que Grenoble n'est pas plus con que Dijon et il n'y a pas forcément moins d'arguments que cette équipe-là. Après, tout serait une question de politique. Aujourd'hui, Dijon peut sortir des jeunes de son centre. Dijon n'a pas mis de côté effectivement cette politique de formation. Je ne dis pas que Grenoble le fait également, mais je trouve que si on prend entre le dernier dépôt de bilan et le club aujourd'hui, 10 ou 12 ans après, sur la partie de la jeunesse, rien n'a changé, voire même ça a empiré en termes de moyens. C'est plus sur ça que ça m'interroge. En tout cas, ce yo-yo n'est pas très bon. Et ce qui me fait dire que ce n'est peut-être pas une bonne idée, c'est de voir Max Marti, si tôt dans la saison, communiquer sur le fait qu'il faut... surtout pas monter. Voilà, quand on est joueur, je suis pas sûr que ce soit très agréable. Voilà, je pense que quand on est joueur, alors c'est peut-être de la com, peut-être qu'il a prévenu tout le monde en disant à l'extérieur je vais envoyer ça, au moins on va nous foutre la paix, les adversaires vous joueront avec moins d'envie, on sera moins sous pression, c'est peut-être qu'une question de com, attention, peut-être qu'il maîtrise très bien ça et comme l'a dit Hugo, il est pas né de la dernière pluie et il sait ce qu'il fait. Maintenant, je pense que aujourd'hui ils sont rassurés de se dire que s'ils peuvent finir dans les 5 premiers, il y aura des finances supplémentaires avec les droits télé. Autre. Il y aura une progression constante parce que deux fois dans les 10 premiers, là on bascule dans un autre cap. Voilà, maintenant ce que j'espère vite pour eux, c'est que les supporters puissent y retourner parce qu'ils sont chauds bouillants, ils ont envie de rentrer dans ce stade des Alpes. Et puis on l'a pas cité, mais la question du stade est une vraie problématique pour le GF comme pour le FCG parce que faut payer pour y jouer, c'est déjà des pertes d'argent d'entrée de jeu. Et puis cette histoire de pelouse sera pas jouable à mon avis très longtemps sur les deux pratiques dans le long terme. Donc tout est à construire, mais en tout cas la dynamique est positive et juste pour ça, il faut féliciter tous ceux qui y contribuent.
Voilà. Et ben voilà. Et ben on va terminer sur cette belle conclusion. On va souhaiter le meilleur, bien évidemment, au GF38, à la CC Ciné, à tous les deux, en espérant qu'on arrive à refaire des émissions aussi pour Rien à Foutre dès qu'on aura un petit peu plus d'actualité. Donc, en tout cas, merci à tous les deux pour votre présence, votre disponibilité. Et puis, à bientôt.
Joyeux anniversaire.
Merci. Et nous, on se retrouve, du coup, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rien à Foutre. À très bientôt, les amis.
Rien à Foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.